Bien, donc on va vous présenter CESA Prof, l'espace enseignant de CESA Maths. J'aurais pu mettre la devise du site aussi, les mathématiques ensemble. Donc on est essentiellement trois à travailler sur le site. Christophe Rindel à ma gauche, de l'Académie d'Amiens, qui s'occupe plus de la partie relationnelle, même si j'en fais un peu. Moi, Thomas Crespin, Académie de Bordeaux, je m'occupe plus de la partie technique, même si Christophe en fait un peu aussi. Et puis on peut citer aussi Sébastien H. de l'Académie de Lille, qui agit un petit peu en chef d'orchestre ou en donneur d'ordre, comme vous préférez. Bien. Donc on a prévu une présentation en trois parties. Je vais commencer par décrire le site, en fait. Voilà, à peu près pendant une demi-heure. Après, Christophe dira un peu les objectifs, parlera un petit peu de l'avenir. Et puis on terminera par quelques questions-réponses, si jamais vous avez des questions et si toutefois on avait les réponses. Donc c'est pas un site particulièrement facile à présenter, parce que c'est un site qui est très touffu et qui est en perpétuel changement. Donc on va présenter un peu l'instant T d'aujourd'hui, mais c'est pas forcément ce qu'il y aura dans un ou deux mois, donc bon, tant pis. En fait, c'est un site dont le cahier des charges s'écrit au fur et à mesure qu'on avance. Et donc chaque semaine, on nous dit tiens, faut faire ça, donc on fait ça, et puis ça se poursuit comme ça. Alors d'abord, pourquoi CESA Prof? Jeanne a parlé d'ENT. Dans CESA Maths, on a eu une réflexion autour de la notion d'ENT il y a de ça de nombreuses années. Une réflexion qui n'a jamais vraiment abouti parce que c'est un sujet complexe. Et je ne sais pas si on avait les moyens humains et techniques de mener ce projet à bout. Est-ce que CESA Prof est un ENT? Oui et non. Moi, j'aurais tendance à dire non, parce que c'est pas un ENT. Ça dépend en quel sens on entend ENT, en fait. À l'échelle d'un ENT académique, ça n'a rien à voir qu'un ENT académique, ça n'a pas du tout les prétentions. Un mini ENT à l'échelle de CESA Maths, pourquoi pas? Bon, ça resterait encore une petite brique, on va dire. Je préfère être modeste. Alors, pourquoi CESA Prof? CESA Maths, au fur et à mesure de son développement, a produit toute une quantité de ressources. Certaines ressources destinées aux élèves qui étaient utilisées par les profs, certaines ressources destinées aux profs qui étaient utilisées par les élèves. Et donc on a pris conscience qu'en fait il fallait qu'on sépare un petit peu les accès et qu'on s'adresse de manière plus spécifique à notre public. Par exemple, la diffusion de CESA Maths, il n'y a plus que 40% de profs inscrits à cette lettre de diffusion, alors qu'à l'origine elle était faite quand même pour les enseignants. Donc il y a besoin d'accueillir les internautes en fonction de leur profil, et CESA Prof est donc l'espace qui va être destiné aux enseignants. Ensuite, une deuxième chose, c'est que dans CESA Maths, il y a des ressources qui sont spécifiquement destinées aux enseignants, certes, mais qui en plus ne doivent être vraiment que réservées aux enseignants. Donc on peut penser aux corrections, des cahiers, des manuels. On peut penser aussi aux livres du maître, des manuels. Donc il fallait faire en fait un espace réservé. Et CESA Prof, c'est un espace réservé, et c'est pas un site public, c'est un site privé. Dernier point, et on a toujours cherché dans CESA Maths à accompagner l'utilisation des ressources qui sont produites et à avoir des retours d'utilisateurs. Alors ça marche dans un noyau assez restreint, mais finalement, à l'échelle du nombre de professeurs qui utilisent nos ressources, on n'a pas tant de retours que ça. Donc le but de CESA Prof, c'était aussi de créer un espace qui permette d'avoir des retours, essayer de généraliser la réflexion autour des pratiques et des usages des outils de CESA Maths. Voilà. Alors CESA Prof pour qui? C'est une question qui va vous paraître un peu provocateur, vous allez dire pour les profs, mais c'est pas si simple du tout. Quand on dit prof, il y a public, il y a privé, il y a sous contrat, il y a hors contrat, il y a en France, il y a en dehors de France, il y a l'accompagnement à la scolarité, les cours particuliers, les cours à domicile. Alors qui on définit comme prof? Ça a été une question. Ça n'a pas été une question si simple. Donc le CA a dû adopter une ligne directrice. Et doucement les dragibus.
Ouais, les saisons un peu quand même.
On écoute. Donc le CA a dû déterminer une ligne directrice, à savoir qui on accepte sur CESA Prof. Alors cette ligne directrice, elle est liée à deux contraintes en fait. Une contrainte morale, c'est-à-dire que par exemple, on ne souhaite pas que certaines officines privées puissent piller dans nos documents allègrement. Et puis une contrainte aussi technique, puisqu'on a besoin nécessairement d'automatiser l'inscription. Et donc si on doit à chaque demande faire une procédure manuelle de validation, ça devient très vite lourd à gérer. Donc je ne sais pas si vous avez lu ce qu'il y a derrière moi. Donc sur ces approfs, il y a des profs et pas seulement, il y a aussi des chercheurs, des formateurs. Par contre, on n'accepte pas actuellement tout ce qui est association, étudiants, aide aux devoirs, cours à domicile, etc. Alors il y a marqué en bas que bon, on laisse la porte ouverte quand même pour les cas particuliers. Alors qu'est-ce qu'on appelle cas particulier? Il y a de multiples cas particuliers, chaque personne est un cas particulier. Par exemple, les retraités, il y en a un ici au moins. On estime que les retraités de l'éducation nationale ont leur place sur ces approfs, parce que bon, ils ont quand même fait toute leur carrière dans l'éducation nationale, et donc ils ont acquis aussi des compétences, et on pense aussi qu'ils peuvent nous apporter beaucoup. On a aussi laissé passer par exemple ce qui s'appelle les écoles de la deuxième chance, qui sont des structures qui ne sont pas reconnues par le ministère, qui n'ont pas de numéro officiel, mais le CA a dit bon, il n'y a pas de problème pour ces structures là alors donc il a fallu mettre des barrières à l'inscription. C'est difficile, mais il faut bien en mettre. Donc déjà, il y a deux conditions pour s'inscrire. En France métropolitaine, il faut une adresse de courriel officielle. Alors au début, il n'y avait que les adresses académiques. Et puis petit à petit, on a élargi aux IFM, aux structures qui dépendent du ministère de l'Agriculture et tout un tas de structures, bon, de chercheurs, formateurs, etc. Et donc il faut renseigner aussi un numéro UAI qui est l'ancien numéro RNE. On ne va pas entrer dans les détails, mais enfin chaque établissement, qu'il soit public ou privé, il y en a qui croient que les privés en ont pas, mais si, si. Même le privé hors contrat, ils ont des numéros UAI. Pour l'étranger, c'est plus délicat. Ça, hein. Donc on ne peut émettre que des recommandations, donc on demande aux candidats pour entrer dans ces approfs à l'étranger de nous donner une adresse de courriel le plus officielle possible, et on essaye d'avoir des informations sur leur établissement, donc ils nous donnent des pistes pour pouvoir étudier leurs demandes, quoi. Et en général ils ne le font pas, et donc systématiquement on relance, bref. Donc il a fallu mettre en place une procédure d'inscription. Alors vous allez peut-être me trouver hors sujet là par rapport à l'histoire de du travail collaboratif, mais pas tant que ça, parce que il est bien de savoir entre qui on est en fait, et il faut se sentir bien sur ses approfs, il faut savoir voilà, qu'on est entre profs. Donc le fait qu'il y ait une procédure d'inscription, c'est important, les gens savent quelles sont les barrières à franchir, et donc ils savent un petit peu avec qui ils vont se retrouver. Bon, alors je ne vais pas vous passer le détail, vous êtes tous inscrits sur ses approfs de toute façon, donc... Donc on commence par rechercher géographiquement sa structure. Si on ne la trouve pas, ben on peut l'inscrire. Et ensuite, on poursuit avec, en renseignant quelques informations personnelles. Alors on demande le strict minimum, nom, prénom et mail, c'est tout. Hein. On se fiche de l'âge, du genre. On a vraiment essayé de limiter au maximum. Toutes les informations restent confidentielles, bien sûr, sauf le nom d'utilisateur, le login, dont il est dit qu'il pourra être visible des autres enseignants sur le site. Alors on a eu besoin d'assouplir les règles parce qu'on a eu affaire à de multiples cas particuliers. Donc il existe une procédure dérogatoire, mais qui est vraiment utilisée au cas par cas. Et finalement, il n'y a pas tant de demandes que ça.
Quelques-unes, hein. Quand même.
Quelques-unes, mais enfin, il faut faire la démarche de nous contacter. Ensuite, on enquête, et puis c'est assez rare finalement qu'on délivre une procédure dérogatoire.
Ouais, depuis le début à peu près 4 ou 5, quelque chose comme ça.
Ah, en plus, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été validés. Bref. Voilà. Donc ensuite, le prof doit confirmer son adresse email officielle. Et ensuite, il a un sondage à remplir, sondage en deux parties, beaucoup plus digeste que celui qu'on vous a distribué hier. Donc ça commence par quelques informations, enfin il n'a pas le même objectif non plus, quelques informations sur la structure, et ensuite l'utilisation des outils de Césamat. Voilà, ça tient en deux pages, c'est pas long à faire, c'est que des cases à cocher, il n'y a rien à taper ou à saisir, donc ça va assez vite. Voilà. Et donc une fois que le sondage est validé, et une fois seulement que le sondage est validé, le professeur a accès à son espace personnel. Alors nous, bien sûr, on a une interface administrateur pour gérer les cas particuliers. Alors on a, en fait, tout est automatique pour les professeurs français. Il y a deux choses qu'on doit valider à la main. Ce sont les demandes de structures nouvelles qui ne sont pas dans la base de données, et puis les professeurs qui font une demande depuis l'étranger. Donc ça, c'est le gros de notre travail de validation. Alors on est vraiment Sherlock Holmes, parce que une demande à l'étranger, on enquête, est-ce que le professeur est bien un professeur. Donc on contacte l'établissement systématiquement, on écrit au proviseur de la structure en question, si on trouve une adresse mail. Et on a constaté, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent à nous berner. Hein.
Oui.
On a affaire à de nombreuses tentatives de fraude. Des gens qui se disent profs, ils sont pas profs. Beaucoup de gens aussi qui trouvent pas leur structure, donc au lieu de prendre la peine d'inscrire la leur, eh ben, ils en prennent une qui existe au pif et puis ils se disent que ça va passer. Beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a aucune validation manuelle, que c'est fait par des robots, tout automatique.
De temps en temps, on était obligé de préciser que nous n'étions pas des robots. Et qu'il avait affaire à une vraie personne en face de lui et qu'il aura beau insister, il nous fallait des preuves qu'il était bien prof, quoi.
Et on a des choses très vicieuses, hein, des gens qui font des usurpations d'identité, c'est-à-dire ils donnent un vrai bahut, un vrai nom de prof, un vrai prénom de prof, et puis avant de valider, on se rend compte que l'adresse email elle est bizarre, et c'est quelqu'un qui se fait passer pour un prof, et non seulement il faut demander si le prof enseigne, mais il faut aussi demander si c'est bien son adresse email, parce que on a des, comme on demande des sites internet, il y en a un qui s'est mis à créer un nom de domaine le jour même où il s'est inscrit, et puis le lendemain, le nom de domaine avait été revendu déjà, enfin bon, on envoie des passer des trucs, bon, bref. Bien. Alors, quelques statistiques au jour d'aujourd'hui, mais enfin, c'est même les statistiques d'il y a une semaine et ça a déjà bougé. Donc, depuis le lancement du site, ça a été dit, on était mardi dernier, on a passé les 4000 inscrits, on en est à 4145 ce matin, donc déjà ça a monté, vous voyez. On sera plus proche de 5000 à Noël. Donc, comme l'a dit Benjamin, c'est un bon succès quand même. Si on regarde ces 4000 inscrits, il faut savoir qu'ils proviennent de 5800 ou 5900 tentatives d'inscription. Donc ça veut dire qu'il y a encore plus de demandes que ce qui passe, quoi. Donc les inscriptions inachevées, ce sont en grande part, bien sûr, des gens qui ne connaissent pas leur adresse académique ou qui ne maîtrisent pas leur adresse académique. Soit ils n'en connaissent pas l'adresse, soit ils savent pas comment aller consulter leur courrier de confirmation de mail dans leur boîte. Donc ça tombe à l'eau. Alors ils nous posent des questions. Il faudrait qu'on puisse être le relais de tous les rectorats de France. Bref, enfin, ceux qui travaillent sur MEP connaissent bien cette problématique. Inscription refusée 1%, ça peut sembler peu. En même temps, c'est beaucoup, parce que 1% de 5800, ça fait du travail. Bon, et puis ça va être en augmentation, à mon avis, maintenant. Oui. Au point de vue de la répartition géographique, 92% de nos inscrits sont en France, métropolitaine ou outre-mer. Et en ce qui concerne l'étranger, alors vous ne voyez pas seulement là où vous êtes le détail, mais enfin vous voyez des pics. Donc on a 20% de Belges, 20% de Suisses et 20% de ce qu'on appelle le petit Maghreb. Maroc, Algérie, Tunisie. Ce sont des demandes qui nous posent beaucoup de problèmes parce que les sites des ministères correspondants sont obsolètes et c'est très difficile d'avoir des informations sur ces demandes et de pouvoir en vérifier la validité, et il y en a beaucoup qui passent à la poubelle parce que ils sont très gentils, mais donc il faut qu'on les inscrive pour le bonheur de l'humanité, ils nous disent. Bon, très bien. Seulement quand on leur demande des informations concrètes, on n'a rien, et quand on a un site, il n'est pas accessible, ou alors il est tout en arabe. Bon, c'est pas facile. On invite les voisins, on fait traduire, oui. Mais c'est pas facile. Voilà. Les inscrits viennent de 50 pays différents. On est présent sur les 5 continents. Bon, il y a un gros pâté en France, bien sûr. Bon. Donc soit ce sont des pays francophones, soit bien sûr ce sont tous les lycées français à l'étranger, des profs. Bon, c'est marginal, mais enfin on couvre quand même pas mal le territoire. Alors, vous avez vu, si vous êtes sur CESAProf, il y a un truc sympa, il y a la carte des utilisateurs, on peut savoir qui est inscrit près de chez soi. Alors juste le login, hein. On garde les autres données privées pour l'instant. Donc là, c'est autour de Lyon. Alors, chaque punaise ne représente pas une personne ou même un établissement. Ça représente une commune. C'est-à-dire que s'il y a 15 profs inscrits sur 5 établissements différents qui sont tous dans le 4e arrondissement de Lyon, il n'y aura qu'une seule punaise avec la liste des profs en question. Bref. La majorité des inscrits viennent de collèges français, ce n'est pas une surprise non plus. Donc 75% de nos inscrits viennent de collèges, donc ça peut être intéressant de regarder à partir de là de quelle académie. Ce sont des fréquences que vous avez là, ce ne sont pas des effectifs, c'est-à-dire qu'on connaît le nombre de collèges qu'il y a par académie, donc on peut savoir quel est le pourcentage de collèges où on a au moins un professeur inscrit sur ses approfs. Pour savoir un peu le taux de pénétration des collèges. Bon, alors c'est une donnée, comme j'ai dit au début, hein, ça va évoluer. Donc pour l'instant, on touche à peu près un tiers des collèges. Mais on arrivera peut-être à terme à 1 sur 2, je ne sais pas. Ça ne fait qu'augmenter pour l'instant. Donc en tête, Strasbourg, J'ai enlevé, qu'est-ce que j'ai enlevé ? Saint-Pierre et Miquelon, parce qu'il y a un collège et il y a un inscrit, donc ça faisait 100%. Donc ça écrasait tout le reste. Là encore, une statistique, mais qui est très instantanée. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des inscrits sur ces approfs. C'est important de savoir qu'il y a 4000 inscrits, parce qu'il faut qu'il y ait un vivier pour que le travail puisse prendre. Il faut aussi que les gens passent sur ces approfs. S'ils s'inscrivent et qu'ils ne passent pas, ça ne sert à rien. Donc on a actuellement un prof sur 4 qui s'est connecté au cours de la dernière semaine, et un prof sur 2 au cours du dernier mois. Bon, sachant qu'on n'a pas encore lancé de newsletter CESA Prof, qui forcément va aussi amener du trafic. Enfin, ça vous donne une idée. Bon. Mais à mon avis, il faudra avoir ça sur la durée. Bon, alors qu'est-ce que contenu sur CESA Prof ? Il ne suffit pas de dire les gens qu'il faut qu'ils s'inscrivent, il faut aussi qu'ils aient des choses qui les intéressent. Donc on commence par des actualités et des informations. Donc la page d'accueil, c'est important, et je pense qu'on a pas mal travaillé là-dessus, qu'on a abouti quelque chose qui est assez sympa. Donc la page d'accueil, vous avez différents niveaux d'actualité, suivant leur densité, des brèves brèves, pas nombrilistes centrés sur ces amas, des brèves très ouvertes sur l'extérieur, des séminaires, des conférences, celles-ci par exemple, enfin, ces amas, mais... Bon, chaque professeur peut proposer une brève, on en reparlera. Les derniers messages du forum, ce qui a permis un peu de mettre en valeur le forum, et ça a créé du trafic sur le forum. Ensuite, à l'échelon supérieur, les derniers billets du blog, et puis deux des derniers articles de Mathématis, la liste étant renouvelée à chaque chargement de page. Donc on trouve des actualités, des informations dont vous avez, il paraît que c'est apprécié, bon, qu'on peut trouver sur un site académique bien fait, hein. Donc les programmes, les documents d'accompagnement pour le collège, pour le lycée, tout ce qui concerne le brevet, le baccalauréat, les preuves pratiques, tous les dispositifs aussi, les PPRE, enfin bon. Donc le professeur a regroupé a priori tous les documents dont il peut avoir besoin, les documents officiels. On a aussi fait un petit peu une sélection de favoris de sites, sites centrales, portail des IREM, l'APMEP, bon, sans, voilà. Ensuite, sur ces approfs, il y a tout un pan d'échanges et de contacts. Donc il y a un forum, on l'a dit. Christophe en reparlera, savoir est-ce que ça prend, est-ce que ça prend pas. Moi, je fais juste un instantané, puis Christophe vous dira plus en détail. Il y a une multitude de blogs.
Wiki.
Il y a une multitude de wiki. Donc ça peut être des livres du prof qui sont faits sous cette forme-là. On en reparlera aussi. Qui permettent de communiquer. Je l'ai dit tout à l'heure, chaque professeur peut proposer une brève qui ensuite est validée par un administrateur, enfin validée ou rejetée. Hein. Chaque professeur peut contacter un responsable d'un projet de ses amates. Donc Christophe vous dira si ça prend, ça prend pas. Ceux qui sont responsables de projet le savent un peu. Et puis on rappelle, ça c'est pas nouveau, on rappelle les listes de discussion qui existaient déjà, les listes de discussion de Mad Discute. Bon. Il y aura d'autres outils prévus pour échanger et se contacter, on en reparlera aussi. Donc les documents réservés, on en a parlé au début, puisque CESAProf c'est un espace réservé, donc on peut trouver les livres du professeur, qui sont bien faits, hein, pour ceux qui sont allés voir. C'est quand même assez complet, surtout le manuel 3e, puisque c'est le dernier qui a été fait, donc bien sûr les autres, il y a moins d'efforts qui ont été faits dessus, mais on trouve le socle, on trouve le programme, on trouve le B2I, on trouve pas mal d'informations complémentaires. Je pense qu'il y a une réelle plus-value quand même pour le livre du prof 3e que le professeur peut aller trouver sur CESAProf. Les corrections, donc ça c'est, on n'a aucun mérite, hein, on ne fait que mettre en ligne le travail des autres. Donc les corrections des manuels et des cahiers maths en poche sont mises au fur et à mesure sur CESAProf. Alors il est clair que les corrections et le livre du prof, c'est vraiment un fort produit d'appel. Ça agit comme un aimant. C'est ce qui fait aussi qu'on a tant d'inscrits sur CESAProf actuellement. Les gens recherchent beaucoup les corrections, je ne sais pas pourquoi. Moi j'en ai m'en sers pas, mais bon. Non, pas besoin. Bon. Alors les avant-premières, ça aussi c'est intéressant. Donc là c'est plus centré sur CESAMAT. Donc les logiciels qui sont en version bêta, en construction, instrument poche, version 1.99999, par exemple, trace en poche. Et puis alors ça aussi c'est très intéressant, c'est donc le manuel CESAMAT et les cahiers maths en poche qui sont en cours d'élaboration. On voit sur CESAProf les fiches qui sont en cours de validation. Version par version, les professeurs peuvent consulter les versions successives, enfin, ils voient les versions se suivre, ils peuvent les commenter, donc ils ont vraiment accès là quand même, sans être rédacteurs eux-mêmes, ils ont quand même accès, ils voient les choses se construire. Donc je trouve que c'est très intéressant, et ils peuvent bien sûr faire des propositions, des remarques, des commentaires via le forum. Ensuite, thématique, communauté. Christophe vous parlera peut-être de la différence entre les deux. Bon, communauté, c'est un bien grand mot. Moi, je dirais plutôt thématique. Disons que sur CESAProf, il y a des zones, des espaces. Donc, il y a différentes choses qui existent déjà. Il y a un espace pour le TNI, où chacun est invité. Christophe vous a fortement invité, d'ailleurs, à apporter son expérience de l'outil. Il y a un espace 4e aide et soutien, donc ça ce sont un ensemble de fiches qui ont été faites par Hans Virmikas et Françoise Lescure qui sont proposées au téléchargement et les utilisateurs peuvent en discuter, dire ce qu'ils en pensent, poser des questions. Il y a un espace sur Geometrix qui est un logiciel de géométrie, faire des démonstrations. Donc là c'est pareil, on présente le site, on présente. Donc ça c'est un outil qui est complètement en dehors de CESAMAT en fait, et auquel l'auteur souhaitait donner une visibilité, et on lui a ouvert un espace pour qu'elle donne une visibilité et éventuellement avoir des retours d'utilisateurs ou des critiques. Voilà. Un espace sur l'épreuve pratique de maths, Benjamin en parlait hier. Donc là, vous avez pour chaque sujet 2008 des compléments, leur résolution en fait avec des compléments numériques. Alors là encore, on n'est pas sectaire. Vous avez trace en poche, vous avez GeoGebra, vous avez CarMetal, c'est ça ?
Géoplan.
Bon. Donc tout le monde peut, voilà, et puis on peut discuter sur le forum de l'épreuve pratique de maths. Pour terminer ma partie, les interconnexions. Donc, c'est pareil, Benjamin vous l'a montré hier. Ça, c'est vraiment interne à l'association, en fait. Ça intéresse pas grand monde. Le bandeau du haut, là. Donc, le professeur, moi j'ai différents statuts, donc je peux basculer d'un statut à un autre. Mais bon, c'est quand même interne à l'asso. Ça, vous l'avez pas encore vu. Ça existe, mais vous avez pas le lien encore. Donc normalement, pour ceux qui sont inscrits sur MEP Réseau, que ce soit la version académique ou la version nationale, vous pourrez depuis CESAProf basculer vers votre interface formateur MEP Réseau, sans avoir à vous réidentifier. Enfin, la première fois, il faudra vous vous identifiez, et puis dans les fois suivantes, ce sera automatique. Donc ça marche. Mais il faut le temps de le diffuser sur le réseau, donc j'attends le feu vert de CEPC. Voilà. Un petit tour d'horizon. À toi.
Oui, donc à moi. Donc comme vous l'a montré Thomas, CESAProf est à la fois très dense et puis nouveau, puisqu'il n'a que 4 mois d'existence. Dense parce qu'il y a énormément d'informations et qu'il est vrai que ce n'est pas toujours très très facile de s'y retrouver. Et puis comme c'est nouveau, les profs n'ont pas encore vraiment pris le temps de s'y habituer, de bien naviguer dedans, de trouver toutes les infos et surtout d'y participer, c'est-à-dire la partie la plus intéressante, la partie collaborative. Néanmoins, comme on voit que ça commence à bouger, on commence à avoir des contacts, des demandes. On verra un petit peu par la suite. Donc je vais reprendre à peu près point par point les différents aspects de CESAProf, voir ce qui fonctionne bien ou à peu près, ce qui ne fonctionne pas, et puis essayer de se projeter un petit peu dans le futur, voir ce qu'on pourrait rajouter, faire pour que ça fonctionne. Alors au niveau de la communication, c'est quelque chose qui là fonctionne plutôt pas mal. Les formulaires de contact sont relativement bien utilisés, pas pour tous les projets, mais pour certains projets ça fonctionne pas mal. Le forum qui commence à bouger, on a notamment deux grosses discussions sur le forum, une concernant le DNL, une discipline non linguistique, où on a un petit projet, et une concernant le serveur d'exercice, qui est une demande forte aussi de la part de nos utilisateurs. Comme le disait Thomas tout à l'heure, il y a aussi la possibilité dans la communication de proposer des brèves. Donc si vous avez des choses à proposer, des brèves à proposer, même au niveau local, n'hésitez pas à utiliser le formulaire, à renseigner le formulaire pour nous proposer des brèves. Donc on ne demande pas grand-chose en fait, on demande un titre, un lien et un petit descriptif qui tient en une phrase, quoi. Tu peux peut-être...
Quand tu dis local, je ne sais pas ce que tu appelles local, académique peut-être.
Oui, c'est ça. Enfin,
on ne va pas faire communal non plus.
Non, ça c'est clair. Mais... Donc on demande un titre, une adresse internet et puis un contenu du message. Donc sachez que ces brèves n'apparaissent pas automatiquement, elles sont pour l'instant juste proposées, et derrière nous on valide. Alors on valide tout de suite, pas tout de suite, ça dépend. On essaye aussi d'étaler les brèves dans le temps, parce que si le prof qui se connecte voit 10 nouvelles brèves d'un coup, il n'y a plus d'intérêt pour lui, quoi. Donc parfois on les diffère un peu, j'ai des brèves qui sont en attente depuis un mois parce que y en a d'autres plus importantes qui doivent arriver. Dans un futur plus ou moins proche, va apparaître aussi sur CESAProf une newsletter, un peu à la newsletter de CESAMAT. L'avantage de cette newsletter, c'est qu'on pourra aussi cibler un peu plus notre public. Donc ceux qui ont un TNI dans leurs établissements, normalement ont dû recevoir... une lettre de la part de CESAProf précisant qu'il existe un wiki pour le TNI. Donc on pourra, en fonction de différents critères... Je suis trop long ?
Non, vas-y.
Vas-y. On pourra, en fonction de différents critères, cibler plus particulièrement certaines personnes et puis ou diffuser cette lettre d'information à l'ensemble des collègues. Devrait arriver aussi, mais ça dans un futur un peu plus lointain, un système de petites annonces locales où les profs pourront essayer de se contacter de façon un peu plus locale pour soit aller visiter un collègue, enfin tout ce qui est en rapport avec les maths, enfin en tout cas on espère.
On a parlé de troc de compétences.
Donc voilà tout le pan concernant l'information, c'est principalement ce pourquoi CESAProf a été fait aussi. Au niveau des ressources réservées, ce qui fonctionne très bien, bien évidemment, ce sont les corrections. C'est un fort appel, puisque la majorité, en fait, des demandes farfelues pour s'inscrire sur CESAProf, c'est pour avoir les corrections. Et d'un autre côté, il y a aussi pas mal de retours sur ces corrections pour nous signaler une petite faute, une coquille. Bon, ça, Sandrine a pas mal de boulot avec ça. Les livres de profs, fonctionne oui et non. C'est-à-dire qu'on a très très peu de retours. Les collègues ont du mal à se les approprier, je pense. On a quelques petites remarques par-ci, par-là, commence à mettre un petit peu des petits commentaires, mais bon, ça reste marginal. Ce qui serait bien, c'est que dans les compléments, les profs puissent mettre leurs compléments par rapport au manuel Césamat, que ce soit un fichier de GeoGebra, un fichier de tableur, ce qu'il veut, quoi, ou un simple commentaire. Voilà, c'est vraiment des livres du prof qui restent ouverts. Et puis, à venir, ce qu'on espère, c'est, au niveau des ressources réservées, c'est un serveur d'exercice. Bon, est-ce qu'il va avoir le jour ? Oui. Quand ? On ne sait pas encore. Il faut encore trouver les compétences pour pouvoir le faire. C'est quand même un gros, gros boulot. Une autre partie encore, c'est les tests de doc et les avant-premières. Alors au niveau des avant-premières, il y a surtout Instrument Poche V2 qui génère pas mal de demandes, de retours. Les autres, un petit peu moins. Le livretis seconde génère moins de remarques. Bon, à un moment donné, il faudra aussi qu'on mette un petit peu en avant chaque projet. On va essayer de faire en sorte tous les 15 jours, 3 semaines, de mettre en avant un projet plus spécifiquement pour inciter les collègues à aller voir et puis à faire des retours. Les relectures niveau 6e, c'est pareil. Il y a très peu de retours par le biais du forum. Bon, il faut dire aussi que dès qu'une fiche est validée, elle disparaît de ses approfs pour apparaître sur le site du manuel, ce qui fait qu'en fait, il y a des fiches sur le site du manuel, il y a des fiches sur ses approfs. Je pense qu'on va modifier ça pour que les fiches restent apparentes en permanence. Enfin, quand je dis on, c'est Thomas. Hein. Pour que ça reste en permanence sur ses approfs, le temps de la rédaction, c'est-à-dire à peu près jusqu'en février, et après, elles disparaîtront complètement. Comme ça, au moins, tout sera au même endroit et le prof pourra directement mettre ses remarques via le biais du forum s'il le souhaite. Et puis, il y a les tests MEP, maths en poche, nouveau modèle. Donc, a priori, il y a pour l'instant une 60aine de retours, d'après ce que me disait Raph. C'est à peu près ça. Bon, on essaye de, même chose, de le mettre en avant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des brefs qui restent plusieurs jours en avant sur la page d'accueil. Donc, comment ça se passe ? Vous avez les exercices, vous les faites pas, vous les passez, mais vous pouvez en tout cas, en bas, mettre un commentaire. Là, il y a déjà 3 commentaires sur cet exercice. Exercice niveau 6e. Il y a aussi la scénarisation MEP CM2 6e, où a priori, il y a peu de retours, par exemple, sur le wiki. Est-ce qu'il faudrait faire quelque chose à côté pour favoriser les retours ? Je ne sais pas encore. Faudra qu'on voit. Quatrième aspect, l'interconnexion. Donc, comme vous l'a montré Thomas tout à l'heure, quand on a accès au pilote ou au wiki, ou etc., il y a une interconnexion qui se fait directement via ces approfs, ce qui est bien pratique. Et bientôt, il y aura aussi une interconnexion directe vers les serveurs Maths en Poche, qui a été aussi une demande et qui est aussi un appel de la part de nombreux collègues qui se sont inscrits justement pour avoir cet accès direct à Maths en Poche. Et enfin, le gros morceau, c'est le travail collaboratif. Donc pour l'instant, ça n'existe pas vraiment. On va essayer de faire en sorte que ça se développe le plus en plus. Donc on a déjà 4 thèmes qui sont présents. Donc les fiches 4e AES, en fait, c'est presque déjà terminé. C'est fini, même, on peut dire. Les seuls retours qu'on a, c'est une demande de savoir si ça va être fait en format papier, si ça va être édité format papier. On a Geometrix où pratiquement tous les exercices niveau 4e ont été faits au format Geometrix par une seule et même personne, Régis Deleuze. On commence à avoir 2-3 petits retours sur le forum, et puis c'est à peu près tout. Il y a l'épreuve pratique, l'EPM, là on n'a strictement aucun retour, il faut dire que tout est fourni, donc bon, bah, les profs n'ont peut-être pas non plus vraiment envie de rajouter des choses, et puis c'est pas la bonne période non plus, il faut être clair. Peut-être que ça bougera plus à ce niveau-là, au mois de février, mars, à peu près, quoi. Enfin, on verra un petit peu. Et puis le wiki TNI, où on a lancé un appel récemment dans une newsletter, là, ciblée sur tous les possesseurs de TNI. On a quelques retours, mais principalement des retours de témoignages et peu de retours d'activité. Donc il va falloir qu'on réussisse à faire bouger les choses, qu'on aille chercher les collègues, qu'on les... Mais bon, vous verrez apparaître des lettres de ma part. Vous inquiétez pas, je vous lâcherai pas. Et puis, en parallèle, on a quelques demandes de collègues qui nous proposent des documents. Donc on en a pour les nouveaux arrivants. Donc, j'ai une collègue qui m'a envoyé tout un tas de fichiers qu'elle a préparés pour sa classe de nouveaux arrivants, c'est-à-dire des élèves qui ne parlent pas bien le français. Donc ça va être mis sous peu, en fonction du temps...
Il y a des vacances bientôt.
Voilà, en fonction du temps disponible. On va avoir aussi très bientôt une page concernant le... DNL, discipline non linguistique. Donc là, la collègue m'a promis aussi des documents, des liens, plein de choses qui pourront intéresser certaines personnes. Donc c'est plus des petites niches, mais c'est par là, je crois, qu'on va réussir à avoir un maximum de personnes. Et puis après, on a des pistes sur maté jeu, maté hôpital, SECPA, maté musique. Premier degré, narration de recherche. Donc bon, c'est pas des choses finalisées, ce sont des idées. On est en contact avec plusieurs personnes, c'est vache dans certains domaines, moi dans d'autres. On espère que ça va aboutir. Donc le but, c'est au début d'essayer de créer une petite thématique, c'est-à-dire plutôt un échange d'informations, et qu'à partir de cette thématique, on arrive plus à un vrai échange collaboratif des documents, et ainsi à créer une vraie communauté autour. Donc voilà pour le futur proche et moins proche, bon, sachant que ces APROF est en perpétuel mouvement, comme le disait Thomas, et que dans un mois, ça sera encore un peu différent, et que dans un an, ça sera même... probablement complètement différent. On essaye de s'adapter aussi le plus possible aux demandes des collègues, et on espère que d'ici quelques temps, on aura un peu plus de temps pour développer la structure interne, parce qu'on aura aussi moins de demandes à gérer. C'est ce qui nous prend l'essentiel de notre temps pour l'instant, quoi. Gérer les inscriptions. Voilà, donc si vous avez des questions... Oui.
Est-ce qu'il est prévu une procédure de réinscription à l'élève, ceux qui changent d'établissement, de statut ?
Alors déjà, quand on est inscrit, on a moyen de changer de structure depuis son espace. Il y a un espace de gestion, donc on peut tout modifier. On peut modifier son nom, son prénom, même son nom d'utilisateur, ce qui n'est pas facile parce qu'il apparaît partout, mais c'est possible. On peut modifier son adresse, mais si on modifie son adresse, il faut réactiver son compte, parce qu'il faut qu'on s'assure de la validité de la nouvelle adresse, forcément. On peut modifier sa structure d'affectation, on peut même passer de France à l'étranger. Bon, il y a juste un problème, mais bon, personne ne le sait.
On n'en parle pas.
C'est ceux qui seraient entrés par une procédure dérogatoire, si jamais ils veulent changer de territoire. Bon, je me suis dit que ça se posera pas, alors bon. C'est un épineux problème que j'ai laissé de côté. Donc on peut changer de structure. Et bon, on l'a pas dit, on ne va pas tout dire. Donc il y a le sondage, en fait. Le sondage qu'on remplit au début sert à deux choses. Il sert à mieux connaître nos utilisateurs, et donc pouvoir ensuite cibler des demandes. Christophe a dit, donc on a fait une demande par rapport au TNI. Les gens, quand ils s'inscrivent, disent s'ils ont ou pas un TNI dans leur établissement. Donc on a envoyé le message qu'à ceux qui ont dit qu'ils avaient un TNI. C'était pas la peine de ratisser plus large. Le sondage sert aussi à maintenir l'inscription, puisque donc on ne veut pas garder d'inscription obsolète, on veut avoir des vrais profs, on ne cherche pas à faire du chiffre. Et donc il faut réactualiser son sondage tous les ans. Donc si on ne le fait pas au bout d'un an, on reçoit un mail de rappel et puis après on se fait sortir. Donc on peut se désinscrire, se réinscrire, mais si on change de structure, il suffit d'utiliser le menu qui est fait pour ça, puisqu'il y a un menu qui est fait pour ça.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions, remarques ?
Au sein des espaces ou des communautés, il y a des documents qui sont déposés, des petits échanges, des petits forums, et tu disais que ça prend pas énormément, j'ai bien compris, pour l'instant.
Pour l'instant, non.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après toi, pour que... quelle énergie il faudrait mettre dedans, et quel type d'énergie, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter pour que ça puisse prendre forme ?
À mon avis, je pense qu'il faut leur mettre un petit peu plus de visibilité, rappeler régulièrement aux utilisateurs qui peuvent utiliser ces espaces, qui peuvent mettre leurs propres commentaires, et qu'on est là pour les aider à le faire, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, enfin, dans la lettre qu'on a envoyée pour le TNI, on avait bien précisé qu'ils pouvaient nous envoyer sous la forme qu'ils voulaient. Je veux même bien me charger de les mettre sur le wiki s'ils, eux, souhaitent pas le faire, ou s'ils se sentent pas à l'aise. Prendre en main un wiki, c'est pas non plus, ça se fait pas non plus comme ça, c'est pas si facile que ça, quoi. Bon, mais avant, je pense qu'il faut aussi que nos utilisateurs prennent le temps de regarder ce qu'il y a vraiment, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils viennent principalement pour les corrections, donc il y en a beaucoup qui ont pris les corrections, qui pour l'instant épluchent les corrections, regardent, etc., puis après viendront pour d'autres raisons, et à ce moment-là, on pourra les attirer vers ça. C'est un outil qui est neuf, il a 4 mois. On peut dire clairement qu'au mois de juin, les collègues ne prennent pas en main cet outil. Là, ils vont commencer à en avoir besoin, ils vont commencer à regarder. Donc là, je pense qu'on va commencer à pouvoir aller les chercher, mettre en avant certaines choses de façon un peu plus régulière pour qu'ils utilisent ces wikis. Donc, on va plus communiquer là-dessus. Enfin, en tout cas, essayer de communiquer là-dessus. C'est le but de la page d'accueil. Où on voit coup de projecteur. Donc ça, c'est des brèves, en fait, que nous, on va mettre et qui vont rester un petit moment.
C'est là-dessus que je voulais intervenir de toute façon. J'ai un autre sentiment par rapport à ça, c'est que, moi, c'est vraiment mon credo, c'est que si on veut lancer quelque chose, il faut se décider un petit peu de la forme que ça va avoir, et puis il faut commencer par faire pour que les autres fassent. Donc moi, j'ai quand même le sentiment que si on veut... Bon, je pense à ce que tu as fait, par exemple, sur le Libretis Seconde. Je pense que ça ne peut prendre qu'à partir du moment où il y a quelques relectures pertinentes qui sont déjà présentes sur le forum. Je crois que la démarche pour un utilisateur lambda de faire le premier pas, de franchir le saut de la page blanche, ben, faut pas l'attendre assez naturellement. Et je crois qu'on aidera vraiment à faire vivre ces outils si on crée le petit noyau... Et je pense que c'est complémentaire tout à fait avec ce que tu dis, à mon avis.
C'est ce qu'on a commencé à faire avec Yuba sur les narrations de recherche, par exemple. On a commencé à mettre des commentaires et là, on en a vu un autre apparaître. Bon, un seul, mais c'est un début, quoi. Il faut aussi que les gens prennent le pli, quoi. C'est vrai qu'il y a aussi la fameuse angoisse de la page blanche.
C'est bon, ça marche ? Ouais. Moi, je pense que les membres de Césamat et les communautés juste autour de Césamat, c'est les premières communautés qui doivent s'emparer de l'outil. Je ne suis pas persuadé que ce soit encore le cas, en fait. C'est-à-dire, ça demande tellement de... c'est tellement vaste, en fait, et c'est tellement un nouvel outil que même dans les communautés proches, on n'a pas encore cette adhésion. Je crois pas encore totalement.
Non, tout à fait.
Donc je rejoins un peu ce que dit Noël. Je pense que dans un premier temps, c'est l'adhésion d'abord des cercles proches qui elle va amener l'adhésion des autres, quoi. C'est un mouvement de boule de neige, quoi. qui peut se créer. Maintenant, il va être totalement catalysé, ce mouvement-là. Je pense qu'on ne peut pas attendre spontanément qu'il se fasse. Même si, parfois, on aura des bonnes surprises. On peut rebondir sur des actes spontanés, mais globalement, ce sera plutôt une stratégie globale quoi, de mise en action.
Au niveau des wikis, oui. Au niveau des communautés, on a des demandes.
Oui.
Des propositions de documents spontanés. Quoi. Enfin, moi, j'étais extrêmement surpris de la collègue qui m'a envoyé un mail avec... je sais pas, il y avait une quinzaine de fichiers en me disant, ben voilà, moi je fais ça avec mes élèves, nouveaux arrivants, si ça vous intéresse, je vous les donne.
Alors moi je voulais juste faire une remarque, et je pensais que c'était la remarque que Noël allait faire, mais concernant l'aspect mutualisation, parce qu'on a bien vu que Césamat s'est créé quand même au départ sur la mutualisation. Si Matadoc s'est arrêté au bout d'un certain nombre d'années, c'est parce que la mutualisation elle était faite en aveugle, elle devenait redondante, etc. Peut-être qu'avec Césaprof, on a un nouvel outil pour une nouvelle forme de mutualisation. Et plus axé, plus contrôlé, plus... Parce qu'on a justement... Ce qui nous manquait, c'était cet espace de sécurisé, en fait, entre enseignants, qu'on n'avait pas du tout avant. Et j'ai l'impression que, à part les niches, c'est-à-dire... à part les niches où là, ça peut prendre sur des questions très, très spécifiques, sinon, ça repartira sur des questions de mutualisation. À peu près sûr, quoi.
Bah, disons que pour l'instant, on va uniquement accepter comme documents des documents soit qui sont sur des niches spécifiques comme DNL ou ce genre de choses, soit des documents qui seront en rapport avec ce qui existe déjà. Par exemple, un exercice du manuel qui a été détourné, qui a été réécrit, etc. On ne va pas prendre des documents dans un sens beaucoup plus large, parce que là, on va dépasser... À mon avis, le cadre de Césaprof, c'est plus l'objet d'autres projets, ça, à mon avis, qui auront leur place dans Césaprof, mais bon, pas tout de suite non plus.
Je rejoins ce qu'a dit Noël. Quand, à propos du livret 10 secondes, moi, personnellement, il ne m'est pas venu à l'esprit d'aller sur le forum des fiches pour ajouter des choses. Parce qu'on a fait tout le travail en amont. Et en quelque sorte, une fois qu'on le met... On est dans une situation d'attente de la part de la communauté. Mm-hmm. En gros, chacun attend que quelqu'un bouge, quoi.
Oui, c'est à peu près ça.
Alors, peut-être que là, je vais rebondir juste là-dessus. Et je me rappelle de ce qu'a dit Luc Trouche hier matin, sur lequel j'avais réagi, et l'expérience du SFODEM, qui disait que... raconter un petit peu comment la fiche avait évolué, pourquoi on avait enlevé des choses, pourquoi on en avait rajouté d'autres... Ça permettait de se l'approprier et ça permettait de faire évoluer les choses. Mais j'ai pas d'expérience directe, mais ça m'a beaucoup intéressé.
On va prendre une dernière intervention de Benjamin, après on va passer à la conférence suivante.
Actuellement, on a choisi de mettre en ligne pour test les fiches qui sont entre guillemets validées. Elles sont arrivées à un stade où déjà à l'intérieur des projets, il y a eu des relectures, il y a eu éventuellement des tests. Et elles ont un certain statut qui permet... Enfin, on se dit, c'est à ce moment-là qu'il faut les mettre. Peut-être qu'il faudrait les mettre la version antérieure, juste un cran en dessous.
Justement.
On pourrait faire intervenir les gens qui sont dans les projets pour la relecture, pas ultime, mais juste avant.
Justement, concernant le manuel 6e, ce sont des fiches qui sont en attente de validation. Ce ne sont pas les fiches qui sont validées encore.
Mais est-ce que ceux qui interviennent dans les listes manuelles, habituellement sur la liste de diffusion, interviennent sur Césaprof ?
Non, interviennent sur ils interviennent sur la liste du manuel.
Et c'est là où on perd quelque chose, à mon avis, puisque cette intervention...
Oui, mais on perd peut-être quelque chose, mais le problème, c'est que si on commence à modifier au fur et à mesure, parce qu'un tel nous a dit ci ou un tel nous a dit ça, ça va devenir ingérable pour l'équipe manuelle. C'est déjà difficilement gérable quand on voit le nombre de mails qui arrivent sur la liste du manuel, parce que chacun a son avis, etc., ce qui est tout à fait normal, et qu'à un moment donné, il faut trancher. Si les avis commencent à arriver aussi de l'extérieur, ça va...
Il n'y en aura pas plus de l'extérieur, puisqu'il n'y en a pas. Ça sera les avis de la liste. Ils seront juste déplacés. Au lieu d'être sur la liste, ils seront dans Césaprof. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois.
Ouais, mais là, il faut voir plutôt l'équipe du manuel si elle souhaite travailler comme ça.
Je ne parle pas que du manuel. Ouais. Les livrets 10 secondes, ça pourrait être pareil. Au lieu de les mettre à un stade où on considère que ben, l'affiche elle est prête à être testée en classe.
Ça va être modifié pour le livretis seconde, ça va être modifié pour que apparaissent les fiches en attente de validation.